8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. En cette fin de semaine, je vous propose de lever les yeux vers les grands de ce monde, Prince, Altesse. Il faut dire que depuis quelques jours, avec la sortie du livre de Harry, duc de Sussex, le grand déballage intime nous questionne. Pourquoi les têtes couronnées ont-elles autant de problèmes? Pourquoi cela intéresse autant les foules? Nous allons en discuter avec nos invités qui sortent un livre à point nommé « Altesse en détresse, quand les psys s'invitent chez les têtes couronnées » aux éditions Flammarion. Virginie Méglet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste. Thomas Pernette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste des monarchies au magazine Point de vue. Et dans votre livre commun, écrit à quatre mains, il y a bien sûr Harry et Meghan, Charles et Diana, mais aussi Charlène de Monaco, qui s'ennuie à mourir sur son rocher, ou encore la plus silencieuse et emmurée, l'impératrice Masako du Japon, et tant d'autres familles d'ailleurs à travers l'Europe, dans le monde, à la fois hors sol des monarchies, et pourtant un monde qui est forcément confronté à son époque, à savoir la diversité, la mixité, la libre parole, les émotions, autant d'idées tout à fait révolutionnaires dans les couloirs des palais qui, si longtemps, ont ressassé le mantra élisabétain « Never complain, never explain, ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. » Aujourd'hui, faut-il au contraire victimiser les altesses pour mieux les aimer, mieux les comprendre? À voir avec vous.
8 milliards de voisins
et de voisines.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
8 milliards de voisins.
Alors, pour les voisins et les voisines qui se demandent pourquoi donc traiter ce sujet, je voudrais quand même rappeler un chiffre. Harry et Meghan ont eu près de 2 milliards de téléspectateurs pour leur mariage, à peu près autant que le mariage du frère ennemi William avec Kate Middleton. Aujourd'hui, Harry publie son histoire confession sous le titre anglais Spare, c'est-à-dire en français le suppléant. Un coup médiatique ou un coup de colère, hein, c'est selon, même si l'audience d'ailleurs n'a pas forcément été au rendez-vous sur la chaîne française TF1, qui retransmettait l'interview fleuve d'Harry de la chaîne britannique ITV.
Votre Altesse Royale, est-ce qu'on peut voir votre fils ?
C'est l'homme dont on parle le plus sur la planète. Il a maintenant écrit une autobiographie avec tant de franchise qu'il jette sur la famille royale une lumière très crue.
Mon Dieu, la rivalité fraternelle. On n'était pas déjà passé à autre chose? L'héritier contre le suppléant, tout ça. Il m'a attrapé par le col, arrachant mon collier et m'a fait tomber par terre.
Est-ce que votre frère ne pourrait pas vous dire « Harry, comment as-tu pu me faire ça après tout ce qu'on a traversé ensemble ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il vous dirait ?»
Il dirait probablement tout un tas de choses.
Ça fait maintenant plus de 20 ans que Harry et moi nous nous connaissons. On a traversé les bons moments, comme les mauvais. Il m'a donc invité chez lui, en Californie, pour parler d'un livre dont moi-même, j'ai eu du mal à me remettre.
Croyez-vous encore en la monarchie?
Oui.
Est-ce que vous pensez que vous aurez encore un rôle à y jouer? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'aime mon pays d'origine et j'aime ma famille. Et je les aimerai toujours. J'aurais juste aimé qu'au deuxième moment le plus sombre de ma vie, ils soient tous les deux là pour moi.
Vous avez coupé les ponts, vous les avez même brûlés au lance-flammes.
Eh bien, ils n'ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier.
C'est un témoignage brut, sans complaisance, sur une vie extraordinaire.
Il y a pas mal d'histoires de drogue, de marijuana, de champignons hallucinogènes, de cocaïne.
Ça va surprendre pas mal de monde.
Mais c'est important de le reconnaître.
Il appelle ça la vérité sans détour.
J'aimerais récupérer mon père. J'aimerais avoir mon frère.
Si c'est la vérité, c'est tout simplement incroyable.
Harry, l'interview événement.
Vous êtes bien chez 8 milliards de voisins sur RFI. On s'intéresse à toutes les vies des voisins et des voisines sur la planète, y compris celle de Harry. Thomas Pernette, vous êtes journaliste spécialisé des monarchies. Avez-vous lu le livre de Harry, Spare, donc le suppléant?
Oui, et comment ne pas le lire? Alors déjà, parce que bien sûr, c'est...
550 pages.
Oui, oui, c'est vrai, c'est un beau pavé, pour le dire comme ceci. Comment ne pas le lire? Parce que bien sûr, c'est mon métier, c'est aussi ma passion. Et comment essayer de ne pas y voir, d'y lire, pas la confirmation de ce qu'on a écrit avec Virginie Meiglet, mais néanmoins, peut-être... retrouver ce Harry. En fait, il y a quelque chose qui me passionne, moi, dans les familles royales, dans ses représentants, et notamment le prince Harry, c'est qu'on grandit, on vieillit avec eux. Et bien sûr, Harry, pour nous tous, qui sait, c'est aussi et surtout le fils de Diana. Mmh. Tout le monde se souvient, le monde se souvient de ce petit garçon qui marchait derrière le cercueil de sa mère en 97 avec son frère, avec son oncle, avec son grand-père, avec son père. Et voilà, on vit avec eux, et c'est sans doute pour ça, mais je ne veux pas déflorer
Vous
le sujet. Vous
avez presque le même âge que lui, non?
Oui, oui, on a sensiblement le même âge. J'y avais jamais pensé, d'ailleurs.
Peut-être qu'il va falloir que j'en parle
à ma psychanalyste préférée. Mais oui, je l'ai lu et c'est un livre très
intéressant. Vous avez appris quelque chose ou pas?
Alors oui, on apprend beaucoup de choses. Alors après, dans ce torrent de confessions, est-ce que tout ce qu'on apprend est intéressant? C'est pas moins de le juger, mais moi, savoir comment le prince Harry a perdu sa virginité à 17 ans, savoir que le jour du mariage de son frère sentait l'alcool, là, on est un peu dans la tambouille people qui, moi, ne m'intéresse pas. Mais néanmoins, dans l'écriture et surtout dans ce besoin de dire et de relire, parce qu'il y a ce livre qui est très important, mais il y a eu le documentaire de Netflix en décembre, il n'y a pas si longtemps, où déjà on parlait. Il y a des émissions qu'il a fait, il y a Oprah Winfrey, il y a un documentaire qu'il a fait avec elle.
50 millions de téléspectateurs, l'interview avec Meghan et Oprah Winfrey.
C'est toujours ce besoin de venir et de revenir. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas tant ce qu'on dit, même si c'est important, c'est qu'on a besoin de le marteler, de le redire et de le redire. En fait, on est écrasé par ce besoin de parole. Et là, sans doute, Virginie Meiglet, qui est psychanalyste, dira quelque chose que je n'arrive pas à décrypter, mais c'est intéressant de voir à quel point il n'arrive pas à s'arrêter, il n'arrive pas à fermer ce robinet des lamentations et des peines qui sont réelles.
Alors on peut vous reprocher évidemment à vous Thomas Pernette, mais surtout à vous Virginie Meiglet, vous la psy dans le livre Altesse en détresse, de faire de la psychanalyse de comptoir, puisque par définition vous n'avez pas eu comme patient ces têtes couronnées. Il y a quelque chose qui vous a frappé notamment dans le titre du livre de Harry, le suppléant, Virginie Meiglet.
Ah oui, je trouvais vraiment un bon titre dans le sens où il dit au-delà de ce qui est dit. Parce que là, on l'entendait dans l'interview dire la vérité sans détour. Et moi, je pense que ce n'est pas la vérité sans détour, c'est une vérité. Hein, c'est la vérité en tant que cri du cœur. Mais le titre dit bien, effectivement, le chagrin de son histoire. C'est qu'effectivement, le suppléant, c'est le second. Il est lui-même le petit-fils d'un suppléant qui n'était pas destiné à être roi. Et donc, ça dit quelque chose au-delà de celui qui n'est pas entendu, celui qui n'a pas destiné à avoir la première place. Et ça, j'ai pas lu encore tout le livre, je le lirai. Alors,
il me semble qu'Harry écrit que Charles aurait dit à Diana, tu m'as donné un héritier et un remplaçant, tu as fait ton travail.
Alors oui, le mot est un peu dur, il est très anglais, hein, the heir and the spur, l'héritier et le suppléant, c'est très anglais. Mais c'est une réalité, est-ce que vraiment Charles a dit ça à Diana? C'est autre chose, parce qu'il aurait aussi dit quand il est né, oh mon Dieu, c'est un garçon, et en plus il est roux, donc on peut toujours trouver des petites phrases. On n'était pas à la maternité ce jour-là. Mais cette formule, elle existe, et surtout... Cette conception, elle existe dans toutes les monarchies, dans toutes les monarchies du monde. Il y a des suppléants, des numéros 2, qui vivent très bien cette deuxième place. On peut faire sa vie, trouver sa voie en étant le suppléant, sachant qu'être dans une famille royale, sauf si vous êtes le premier et qu'un jour vous êtes souverain, vous êtes condamné à dégringoler toute votre vie dans l'ordre de succession au trône. La princesse Eugénie, la princesse Béatrice, pour prendre d'autres petites filles de la reine Elisabeth II, ont été, je ne sais plus, 6e, 7e. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne une monarchie. Ça nous paraît terrible, nous, parce qu'on n'est pas dans ce monde-là. Et ces familles sont aussi des familles comme les autres, mais ce sont aussi des familles extraordinaires. Et ça, c'est une dimension importante.
Pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre à 38 ans, Harry évoque sa volonté de reprendre le contrôle de sa vie, de la vérité, hein, comme vous le disiez, Virginie Meiglet. Sa mère avait tenu le même discours quand elle avait décidé de raconter sa faillite, la faillite de son mariage et ses troubles psychiques. Il y a toujours cette ambivalence de protéger le récit de sa vie et de le déballer pour corriger le récit médiatique qui lui-même se nourrit parfois de fuites ou de politiques de communication de la même famille.
Oui, mais c'est là où il est vraiment...
C'est un peu schizophrénique quand même.
C'est ça, complètement, mais lui, il est aussi le fils de sa mère. Ce que je trouvais très très fort, c'est comment il y a le fils, qui est donc le frère aîné, qui est donc le fils du roi, et lui, il existe qu'en revendiquant, en se revendiquant en tant que fils de sa mère, mais qui était quand même la première, effectivement, à dénoncer pas les inégalités, c'est plutôt les mauvais traitements qui étaient faits. Et là, mais malheureusement, lui, je pense qu'il a pas... Il a il a pas une parole aussi autorisée que sa mère. Enfin, parce que dans le sens où lui, effectivement, il est vraiment fils de descendant droit directement.
Biologiquement.
Et est-ce qu'il n'y a que ceux qui claquent la porte qui peuvent parler alors, les pièces rapportées, Diana Spencer, Meghan Markle, ou le cadet, Harry, le remplaçant?
Oui, d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, comme vous le dites, le contrôle. Je pense que dans la vie, dans l'enfance et dans les traumatismes de Harry, il y a justement cette absence de contrôle. Les souvenirs dont parle le prince Harry, c'est celui de sa mère harcelée par les tabloïds, c'est-à-dire le contrôle de votre vie par la presse, par le jeu des révélations, le contrôle par les hommes en gris, comme Diana aimait à les appeler, c'est-à-dire une espèce d'administration de Buckingham qui décide pour vous. Et en effet, dans le départ, autant que dans l'écriture, il y a tout d'un coup un... Je reprends le contrôle. J'essaie de reprendre le contrôle pour une autre vie. Il y a aussi une phrase qui, dans le livre, moi, m'émeut beaucoup, qui est très intéressante. C'est, il dit, moi, je veux une famille, pas une institution. Et là, en effet, peut-être qu'on reprend le contrôle, on peut se lâcher, on peut s'exprimer quand on sort de l'institution. Et dans ce cas-là, de déshumanisant, à savoir, c'est pas pour rien qu'on les appelle la firme, les Windsor. Hein. C'est une entreprise, c'est aussi une très grande entreprise qui fait beaucoup de médias, qui fait aussi certainement beaucoup d'argent.
Cette dénomination, d'ailleurs, la firme, elle vient d'où ?
De même. C'est ça qui est drôle. L'idée voudrait que ça vienne du prince Philippe lui-même, qui était d'ailleurs une pièce rapportée, parce que même s'il était prince de Grèce et Danemark, je vais pas embêter tous vos auditeurs avec
son origine. Ah ben non, on est là pour ça. Et il était obligé de marcher derrière la reine d'Angleterre.
Il était déjà, voilà, hein, c'est ça. C'est ça qu'il y a une lignée d'hommes, de suppléants quand même. Et c'est ça qui se dit. Mais
qui eux aussi écrivent l'histoire de la monarchie, voilà, d'une certaine manière.
Voilà, ils l'écrivent et puis ils veulent en faire. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils veulent faire entendre une voix la leur, tout en attaquant quand même l'institution et tout en y appartenant. Alors, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Harry, qui a voulu justement, d'une certaine façon, s'en extraire. Mais je ne pense pas que le fait de vouloir faire entendre la vérité, enfin, je reviens là-dessus, je trouve ça important, c'est une vérité. On ne peut pas chercher. Donc là, c'est vraiment toujours un cri de rage d'enfant et tout ça presque étonnant que cet homme, mais non, ce n'est pas un garçon, cet homme qui a fait un vrai travail analytique, enfin, ou psychothérapeutique, je veux bien le croire, soit finalement encore au point de vouloir faire entendre une voix comme un enfant, comme un mal-aimé. Mmh. Hein. Et donc là, s'en prendre à l'institution et vouloir être reconnu par elle, il y a quelque chose de paradoxal.
Pour vous, en tant que psychanalyste, la vérité n'existe pas ?
Moi, la vérité, elle existe avec un petit V. La vérité intime, elle est délicieuse. Elle se passe dans les cabinets. Et c'est que chacun découvre sa vérité. Moi, je peux inviter que chacun à le faire. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de la dénoncer avec un grand V. On n'a plus besoin de s'y attaquer. Parce que quelque part, elle nous habite, on habite par elle. Et puis, c'est joyeux.
Vous n'êtes pas quand même spécialement dur hein, avec le livre de Harry, Thomas Pernette. Vous dites, je ne suis pas sûre qu'on apprenne des choses capitales. Sur 550 pages, il y a des critiques qui sont tout à fait acerbes. Et d'ailleurs, Harry, pour le moment, semble sortir perdant de la parution de ce livre. Un sondage YouGov réalisé après les premières révélations en fin de semaine dernière montre que 2/3, 64% des Britanniques ont désormais une opinion défavorable. Seulement 26% d'entre eux ont un regard positif sur Harry. Une baisse de 7 points par rapport au sondage précédent réalisé début décembre. Et il faut se rappeler qu'Harry, le rebelle, était très populaire.
Il était, alors, avant leur départ, le départ du duc et de la duchesse de Sussex, qu'on a appelé de manière terrible Mexit, mais faisant porter une fois de plus la responsabilité sur la femme, mais c'est un autre débat et qui me paraît injuste. Néanmoins, est-ce que vraiment l'avenir du prince Harry et de Meghan Markle va s'écrire au Royaume-Uni ? Oui, en effet, les Anglais n'ont pas bien vécu le départ de ce cadet rebelle qu'ils adoraient. Néanmoins, leur avenir aujourd'hui, c'est aux États-Unis. Et je pense que les Américains, mais même les Australiens, les Canadiens, ils adorent cette histoire rocambolesque. C'est très américain, très self-made man de prendre sa vie en main. Rappelons que le roi Charles III n'est pas que roi du Royaume-Uni. Il est roi du Canada, il est roi d'Australie. Je pense que dans ces pays dont il porte encore la couronne, et Dieu sait que les Canadiens et les Australiens autant aimaient beaucoup Elisabeth II, reste à savoir si dans les 10 prochaines années, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande resteront des monarchies, ça c'est un autre débat.
En effet,
mais malgré
on peut
tout,
s'interroger sur l'avenir du Commonwealth, mais
bien
ça
sûr.
c'est un autre débat.
Où c'est terriblement gênant aussi pour le roi Charles, pas simplement en Angleterre.
Alors vous passez dans votre livre Altesse en détresse, en revue de nombreuses histoires familiales dramatiques dans les familles princières, les maisons royales. On peut se demander d'ailleurs si ces maisons royales ne sont pas des maisons de fous, Othon Ier, Othon de Bavière. On est au 19e siècle, à la fin fin du 19e. Il est monté sur le trône en 1886 à la suite de son frère aîné, le célèbre Louis II, écrivez-vous, qui se serait donné la mort en se jetant dans un lac avec son psychiatre. Véridique ?
En tout cas, la légende le raconte.
Othon Ier, qui avait une fâcheuse habitude, c'était d'aboyer, voire de mordre les domestiques qui le servent.
Eh oui. On a du mal à imaginer aujourd'hui.
Il y a plein des anecdotes comme ça sur les familles princières.
Alors là, on a voulu avec Virginie aller aussi à l'origine de toutes ces histoires de famille. Et le 19e, la fin du 19e est très intéressante parce qu'on est à un moment où on est dans l'entre-soi, où il y a forcément un moment aussi où la parole est toujours très cloisonnée. C'est pour ça qu'on s'est amusé à savoir est-ce que Sissi aurait pu aller chez Freud, puisqu'ils sont contemporains. La vérité est bien sûr tout autre. Et donc, on a voulu rappeler ces familles où l'hémophilie, où tout ce qui était consanguin était bien sûr terrible. Et oui, il y a forcément cet héritage-là, au moins symbolique aujourd'hui, c'est-à-dire les non-dits, les portraits de famille, les placards remplis de squelettes sont toujours là dans toutes les familles, également dans celle-ci. Ça nous a amusé de revenir à l'origine de ces familles, non pas l'origine réelle, puisque ce sont des familles qui sont sur le trône parfois depuis le 10e, le 12e, le 14e siècle, mais au moins à ce mal-être psychique au moment où justement va s'inventer la psychanalyse.
Mais il n'y a pas que les mariages consanguins qui pourraient expliquer parfois certaines tares psychiatriques. Hein. Pour vous, en tant que psychanalyste, Virginie Méglet, est-ce que le mode de vie finalement de ces monarchies, la pression médiatique depuis quelques années, mais pas seulement, ça peut finalement expliquer que ces histoires familiales soient si compliquées, ou finalement ces histoires familiales, ces divorces, ces mariages factices, etc., ne sont pas plus compliquées que les familles des communs des mortels.
Là où ce sont quand même des familles qui incarnent un idéal, donc censées représenter la perfection. Donc c'est pour ça, dès qu'il y a un joli événement, il est grandi. Dès qu'il y a un événement qui est perçu comme négatif, il est aussi aggravé. Et le problème aussi, c'est que justement, pour protéger cette image idéale, on va avoir tendance à le cacher. Et donc tout ce qu'on cache, c'est comme n'importe quel symptôme, ça s'aggrave. Si on dissimule une simple blessure, elle s'aggrave.
Ça, c'est la psychanalyste qui parle, pour courir, vous trouver et vous demander de l'aide. Vous posez la question dans votre livre « Altesse en détresse », est-ce qu'on peut se dire malheureux quand on mène la vie de château ? C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une petite indécence pour Meghan Markle, épouse d'Harry. La réponse était claire.
Look, I was really ashamed to say it at the time, and ashamed to have to admit it to Harry especially. Because I know how much loss he suffered. Mm-hmm. But I knew that if I didn't say it, I just didn't want to be alive anymore.
Voilà, Meghan qui dit « j'avais vraiment honte de l'avouer à ce moment-là » et surtout honte de l'admettre particulièrement devant Harry parce que je savais à quel point il avait souffert dans le passé, mais je savais qu'il fallait absolument que j'en parle parce que j'avais plus le désir de vivre. Ça va quand même très loin.
Oui, ça va très loin. Et d'un autre côté, moi, je pense bien sûr que c'est sincère. Est-ce que parce qu'on grandit sous les dorures d'un palais, on n'a pas le droit d'avoir ses failles, d'être malheureux ? Est-ce que maintenant, on va commencer à dire « toi, tu as le droit d'être malheureux, mais pas toi, toi, tu as souffert, toi ?» Là où il y a forcément quelque chose qui est difficile à entendre, c'est que ces gens n'ont pas de problème financier et qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays du monde, on est face à de l'incertitude, face au prix de la vie. Enfin, il y a quand même des choses, ça nous paraît indécent, dans tous les pays du monde d'ailleurs, de se dire qu'il manque. Mais ce n'est pas parce qu'il ne manque de rien qu'il ne souffre pas.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de toxique dans une famille royale pour une outsider comme Meghan ?
Après, toute la difficulté, c'est là aussi, c'est qu'on vient de l'extérieur, on sait qui on épouse, on est censé savoir qui on épouse. On n'épouse pas qu'un homme, on épouse une famille.
Et une histoire.
Et une histoire. Et c'est là, c'est que la difficulté, c'est pas... Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que ce besoin de résoudre, et je l'interroge, je ne le condamne pas, mais ce besoin de résoudre de l'intime sur la place publique. Voilà. Et je pense que là, il y a un décalage. On ne trouve pas une solution à son malheur en accusant l'autre. Alors à la fois, c'est, je pense, très utile aussi pour ces familles royales, parce que c'est ce qui aussi les remet en question. On l'a vu avec la reine d'Angleterre, qui a quand même son anus horribilis, qui a été très, très attaqué au moment de Diana, et qui finalement a une fin de règne vraiment belle. Et donc, ça l'a mise à l'épreuve. En ce sens-là, c'est positif, parce que ça peut-être ça permet aux familles royales royale de se remettre vraiment en question. Mais au niveau personnel, je ne pense pas qu'on éponge son chagrin sur la place publique. Je ne sais pas si je peux me faire entendre comme
c'est ça. C'est la psychanalyste qui dit ça, mais est-ce que les psys consultés par ces familles royales, et ils en consultent, Harry le dit d'ailleurs, est-ce qu'ils ont une voix au chapitre sur justement ces confessions étalées sur la place publique?
Alors là, c'est un peu délicat à dire, mais c'est vrai que c'est quand même juteux d'avoir comme passion la famille royale. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est quand même pour... Enfin, je pense que c'est délicat de moi de m'exprimer sur des confrères, mais c'est vrai que là il y a comme cette tentation de quand on parle à quelqu'un de célèbre, on a envie de le dire à tout le monde, et en même temps c'est très passionnant de recevoir quelqu'un de célèbre et que personne le sache sinon la personne ou non. Donc c'est ce problème là
En tout cas, ça pose une question déontologique,
Oui,
dans votre livre il y a un mot qui revient beaucoup, c'est et d'ailleurs a fortiori avec le titre du livre de Harry, le suppléant, c'est trouver sa place dans la famille royale ou dans une communauté, d'ailleurs, pour nous tous sur Terre. C'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est la problématique universelle.
Ah oui, et ça, je trouve ça, alors pour le coup, d'avoir pensé avec ton internet, c'est vraiment, il y a quelque chose, en effet, d'emblématique chez eux. C'est effectivement, cette question de place est une question de...
Mais dans toutes les fratries.
Dans toutes les fratries, et la position de la fratrie, après, ça se rejoue dans toutes les sociétés. Hein, c'est vraiment, quelle est la place qui me revient. Quelle est celle à laquelle je me sens bien, quelle est celle à laquelle on me donne, celle à laquelle je dois me tenir, et en même temps, toute la vie, c'est de trouver sa place aussi.
Alors, il y a Harry qui, finalement, crie sur la place publique qu'il ne trouve pas sa place, d'une certaine manière. Et puis, il y a l'exacte symétrie en face, c'est Kate Middleton, aujourd'hui princesse de Galles, épouse du prince William, possiblement future reine, qui, elle, a trouvé sa place. Et d'ailleurs, dont les commentateurs disent qu'aujourd'hui, peut-être même que vous l'expliquez, elle est devenue le pilier de la monarchie, que tout repose sur elle, tellement elle est la première de la classe. Comment est-ce qu'elle a fait en étant issue d'une famille roturière, récemment enrichie, Thomas Pernet?
Écoutez, je pense que... Parce qu'on s'est aussi intéressé au clan Middleton dans ce livre et de voir à quel point, finalement, presque les Middleton seraient un ersatz de famille royale. Je pense que c'est une famille où la figure de la mère ou de la grand-mère a toujours été très importante, comme chez les Windsor, finalement. Elisabeth II a été souveraine pendant 70 ans. Ce sont des gens qui sont ambitieux, mais malgré tout, qui savent ce qu'est la discrétion. Et puis, il y a sans doute l'amour, les qualités personnelles de Kate Middleton, mais d'un autre côté... Je ne sais pas comment vous dire, il y a un côté tellement lisse chez Catherine Middleton, chez Kate, que des fois je me demande à quel point nous, journalistes, nous créons des récits. Et dans tout récit, dans tout conte, il y a besoin du bon et du mauvais, de la bête et de la princesse.
Et du lisse et du relief.
Tout à fait. Et il est vrai, pour être complètement transparent et franc et honnête vis-à-vis de Meghan Markle, qu'il y a eu plein d'anecdotes, de choses où on a comparé Kate et Meghan. Kate pouvait faire la même chose, ou plutôt Meghan pouvait faire la même chose que Kate. Kate faisait les choses parfaitement, Meghan faisait toujours des erreurs.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas vue comme la calculatrice, alors que certains spécialistes de la monarchie, vous le rappelez dans le livre, la soupçonnent d'avoir toujours calculé sa conquête du prince William.
Qu'elle soit la princesse parfaite. À partir du moment où on a décidé qu'elle était la princesse parfaite, vous savez, c'est comme William et Harry. Que dit Harry dans ses mémoires? Il dit, mais attendez, quand je me suis déguisé en nazi, rappelez-vous de cette affaire qui a fait scandale pour un bal costumé, j'ai d'abord appelé William et Kate, et ils ont dit, oh, mais c'est super drôle. William a aussi été un fêtard. William a aussi fait des expériences. Mais c'est pas simplement l'institution qui a voulu protéger l'aîné. Elle a certainement voulu le protéger. C'est aussi comment le public a envie de voir ces personnages. Mmh. On a besoin de ces figures de conte. Virginie le dit très bien. Ce sont des familles idéales qui nous expliquent comment marche un grand mariage royal, ce que doit être aujourd'hui la famille. Les princes et princesses de Galles, avec leur famille parfaite, nous montrent ça. Est-ce qu'on n'a pas besoin, nous, inconsciemment, nous journalistes aussi dans nos récits, pour vendre du papier, je m'interroge sur ma profession, de présenter aussi des contre-modèles, et notamment des rebelles. Oui. Harry a certainement été un rebelle, mais on a aussi voulu certainement l'inscrire dans ce rôle de rebelle.
Des rebelles, et en même temps, des personnages aussi lisses que Kate Middleton, qui incarnerait peut-être la nouvelle version de la capacité de résistance de la monarchie dans nos imaginaires,
Virginie Meclé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle n'est pas d'une lignée royale elle-même, elle n'est pas d'une lignée princière. Et du coup, alors... elle va renouveler quand même le sang, mais du coup, elle désire. Ce qui est sûr, c'est qu'en ayant épousé un premier, elle-même une première, elle désire cette place-là, elle va la défendre. On peut penser quand même que réellement, à l'intérieur de la famille, il y a quand même de très grandes rivalités, parce que ce sont des gens qui ont aussi de l'affect, et qu'effectivement, elle a quelque chose de parfait. Elle désire parfaitement, et elle veut vraiment accéder. Tandis que quelqu'un qui était une place de second... ben oui, finalement, je veux dire, il se ment en rebelle ou elle se ment en rebelle, mais rebelle royale aussi. Enfin, je veux dire, mais
de... trouver sa place donc dans le cœur de ses sujets, hein, ça a été finalement le grand succès de Lady Di, même après son divorce, même après sa mort tragique. D'ailleurs, il y a près de 25 ans maintenant, on en parle juste après Rimon. Stare me deep, deep in the eyes with a sense of guilt. Cause you knew what we built. You knew my boundaries. Say you out here fucking up the parties with Darcy. My neck filled with hickeys and bruises. As soon as I met your maneuvers. Like a vampire in the dark. Hunting for new blood, for new blood. Hunting for new love, for new love. Yeah. To leave them new scars, yeah. To leave them new scars, yeah. My veins filled with dice. No pulses but rush. Used to circulate blood until you swallowed my trust. My veins filled with dice. No pulses but rush. Used to circulate blood until you swallowed my trust. My veins filled with dice. No pulses but rush. Used to circulate blood until you swallowed my trust. Vous écoutez 8 milliards de voisins sur RFI et on se penche sur l'inconscient des têtes couronnées en Europe et pas seulement d'ailleurs avec votre livre Virginie Méglet, Thomas Pernette, Altesse en détresse, quand les psys s'invitent chez les têtes couronnées. Et évidemment, cette semaine où le livre Confession d'Harry, petit-fils de la défunte reine Elisabeth, pour ceux qui éventuellement l'ignoreraient, cinquième dans l'ordre de succession au trône, votre livre pose la question pourquoi ces familles hautement dysfonctionnelles, hein, on regarde de toutes les anecdotes que vous livrez, qu'elles soient dans l'outrance des révélations et des scandales ou au contraire dans le contrôle total des apparences. Vous ne parlez pas d'ailleurs de voyeurisme ou d'empathie, mais évidemment qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, non, tout de même, Thomas Pernette.
Non, je n'utiliserai pas ce mot-là parce qu'on le dit dès l'introduction, on n'est pas là pour psychanalyser les têtes couronnées et surtout... On a écrit ce livre avec bienveillance. Ce n'est pas un livre où il y a des scoops. Nous, on n'est pas là pour vendre des scoops. On essaie de porter un regard un peu différent, un pas de côté, sur deux passions qui nous relient aujourd'hui, la psychanalyse et ce monde incroyable, et d'interroger aussi en quoi ils sont fascinants pour nous. Qu'est-ce qu'ils nous disent de nous-mêmes? Et ça, ça nous a beaucoup amusés, parce qu'il faut aussi s'amuser dans la vie en écrivant ce livre. On ne s'amuse pas sur la détresse des gens, mais on s'amuse intellectuellement à essayer de comprendre. C'est intéressant, c'est passionnant. Je ne sais pas si le résultat est passionnant, mais il n'y a pas de voyeurisme dans cet ouvrage. Il y a beaucoup d'amour, j'ai pas honte de le dire plutôt.
Ce qui est sûr, c'est qu'on pousse quand même des portes de maisons de fous. D'ailleurs, vous l'écrivez vous-même dans certaines familles. À Buckingham, tout a peut-être commencé finalement avec cette union factice entre le prince Charles et Diana, avec les conséquences qu'elle révélera après sa séparation.
En public, tout allait bien. Nous formions une très bonne équipe. Mais en privé, tout était différent. Nous étions trois dans ce mariage, et cela faisait beaucoup de monde pour un couple. Ma boulimie était un symptôme de ce qui se passait dans mon mariage. C'était un moyen de me protéger, et cela a fonctionné pour moi à cette époque.
Quels étaient vos sentiments à ce moment-là ?
Une tristesse très profonde, parce que nous avions lutté pour que cela fonctionne entre nous, mais nous étions tous à bout de souffle et finalement mon mari a demandé la séparation et j'ai respecté sa décision.
Ce n'était pas votre idée ?
Pas du tout. Je viens d'une famille divorcée et je ne voulais pas revivre ça.
Pourquoi avez-vous décidé de donner cette interview maintenant ?
Cela fait trois ans que nous avons été séparés et l'image qui a été faite de moi depuis ces trois dernières années a été si confuse que, j'en suis sûre, beaucoup de personnes doutent de moi. Et je veux rassurer tous ces gens qui m'ont aimée et soutenue tout au long de ces 15 dernières années et leur dire que je ne les laisserai jamais tomber. Je ne suis pas assise ici avec ressentiment. Je suis assise ici avec tristesse parce que notre mariage n'a pas fonctionné.
Your Highness, thank you. Votre Altesse Royale, je vous remercie.
Voilà, on est en 1995, Thomas Pernette. Le livre sur Diana fait l'effet d'une bombe sur Buckingham, trois ans avant Diana, sa vraie histoire. Et vous rappelez qu'à l'époque, il s'agit d'une hystérie collective.
Oui, en 92.
C'est la première fois.
Oui, c'est la première fois. Et en plus, le procédé est très particulier puisque... Officiellement, la princesse de Galles n'a pas contribué à cet ouvrage. En fait, c'est un ouvrage publié par un journaliste, Andrew Morton, qui a accès à Diana grâce à un intermédiaire. Il lui envoie des questions par écrit via cet intermédiaire et elle s'enregistre. Et ensuite, il récupère les bandes, les cassettes, et il découvre ce récit incroyable. Et même en 92, même si vraiment dans la stricte intimité, on se doute que ce mariage ne va pas très bien... On n'en est pas à croire que c'est un tel désastre. Et bien sûr, quand le livre sort, mais c'est une explosion parce que les gens, le public, les Britanniques découvrent qu'on leur a menti. C'est-à-dire que le conte de fées qu'on leur vend, alors moi je crois qu'il y a quand même eu de l'amour en 81, etc. Mais le conte de fées qu'on leur vend depuis plus de 10 ans, aujourd'hui, c'est la guerre. On a appelé ça la guerre des Galles. Et bien sûr, ça a un effet dévastateur et c'est le vrai début de ces années noires de la reine Elisabeth II, les années 90 pour les Windsor.
C'est ça. Et les révélations sur un ménage à trois,
oui.
Ce qui est évidemment pas très orthodoxe.
Mais je vous remercie parce que de cette interview de 95 qu'on vient d'écouter, on entend toujours la phrase de « nous étions trois dans ce ménage » et on n'entend jamais la suite. On n'entend jamais cette confession, presque ce testament, on n'entend pas... c'est un peu comme le livre d'Harry, hein, on grappille toujours ce qui est croustillant, mais on n'entend pas ces mots-là, on ne prend pas ce temps-là. Et là, sur l'antenne de RFI, vous nous permettez de les entendre et de les réécouter. Et c'est bien de rappeler que cette interview, qui était bien sûr un coup médiatique, dont on ne va pas parler ici, est aussi la libération d'une parole face caméra pour la première fois, parce que le livre de 92, c'était via un prête-nom, via des cassettes enregistrées, c'était pas elle. Là, elle s'exprime vraiment, et elle exprime aussi sa douleur et la peur que les gens ne l'aiment plus. Et c'est ça l'histoire de Diana, c'est la peur de n'être jamais assez aimée.
Et toujours, près de 25 ans après sa disparition, c'est cette voix de Lady Di qui est vraiment voilée par la tristesse, je ne sais pas, mais en réalité, Diana Spencer, elle le dit d'ailleurs dans l'interview, elle vient elle-même d'une famille de divorcés, mais c'est plus qu'une famille de divorcés, c'est vraiment une famille dysfonctionnelle.
C'est une famille dysfonctionnelle, en plus elle a une position quand même très 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 particulière, mais qui donne, cette position particulière, c'est pareil, c'est pas un point de vue critique, c'est justement ce qui donne de la puissance à sa voix. Je reprends, je suis désolée, le mot de suppléante, c'est qu'à sa place, on attendait un garçon, parce qu'elle est née aussi juste après un bébé garçon qui est mort. Donc, elle avait son problème de place. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, cette difficulté à avoir une place lui a donné une parole si forte. Et là, moi, je suis étonnée en l'entendant, c'est qu'effectivement, là, il y a quand même de la grâce dans l'intime. Elle dit de l'intime, elle laisse passer quelque chose. Tout en disant aussi, on a essayé. Et ça, je trouve ça assez on a essayé de faire ça. Puis finalement, mon mari a préféré qu'on divorce. Donc, ce que je trouve fort là-dedans, c'est qu'effectivement, on avait envie de croire enfin, que ça se passait bien, tout en sachant bien que ça ne se passait pas. Et donc, en fait, là, pour le coup, elle a ouvert une vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas de dénoncer les autres, c'est la vérité, c'est que Mais non, on va pas bien. Et je pense que ça, ça a permis à chacun de se reconnaître dedans. Hein.
Une quête de perfection, voilà. Une quête d'affection qui ne trouve jamais, finalement,
voilà.
On essaie de
faire bien. Et puis, à un moment donné, ben non, c'est l'affect, c'est le dysfonctionnement. Et puis, il vaut mieux qu'on... Voilà, bon. Ça craque.
Alors, lâchons un petit peu la monarchie britannique. Est-ce qu'ailleurs, en Europe, il existe des fascinations, au moins au niveau national? Je ne sais pas, les couronnes belges, espagnoles. Bon, alors, c'est vrai que l'Espagne a été entachée de scandales absolument terrifiants, scandales financiers. Juan Carlos a été obligé d'abdiquer en 2014. Est-ce qu'il existe cette intensité de relation entre l'histoire d'une monarchie et ses sujets dans d'autres pays?
C'est difficile, surtout nous en tant que Français. J'ai beau travailler sur ce domaine, je reste malgré tout un citoyen français. Donc c'est difficile de mesurer le degré d'attachement. Oui, il y a des attachements très forts, il y a des monarchies qui perdent en popularité, d'autres qui gagnent en popularité. Aujourd'hui, par exemple, la monarchie norvégienne, moi je suis passionné par les Norvégiens, je ne sais pas si on est très nombreux en France, gagne. Il y a 80% de gens qui sont pour la monarchie, surtout parmi les jeunes. C'est souvent les jeunes dans tous les pays européens, on va parler que de l'Europe parce que c'est très différent en Thaïlande, au Maroc, en Jordanie, mais c'est souvent les jeunes qui bien sûr décrochent le plus en disant ces gens ne m'intéressent pas, ce sont des rebuts du passé, etc. Pour les Français en tout cas, les Windsor passionnent, mais la deuxième famille royale qui les passionne, c'est bien sûr les Grimaldi, c'est bien sûr Monaco. Je crois même, pardon de le dire, que pour les Français, et j'espère que ça ne va pas faire hurler trop de vos auditeurs, les Grimaldi, c'est un peu notre famille royale, hein, finalement. Ils sont presque dans le sud de la France. Je sais bien que Monaco est un pays indépendant, mais ils parlent français, et pareil, on a vécu, grandi avec eux, avec leur drame, avec leur histoire d'amour, avec Grace Kelly.
Alors pour le coup, il n'y a pas beaucoup de confessions hein, à Monaco, puisque Charlène de Monaco...
Et pourtant, il y a tant à dire.
Il n'y a pas une grande transparence sur ses absences, sur ses séjours en Afrique du Sud, son pays d'origine.
Non, et c'est aussi
elle
ce qui nous interroge.
Bien. C'est ce qu'on peut quand même affirmer.
Elle a eu une année
affirmer.
Très très difficile, en effet, et ce silence aussi nous a beaucoup interrogé avec Virginie. Mmh. Pourquoi ce silence? Nous, on a émis le vœu pieux, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment d'écrire un livre, de libérer aussi la parole. Je ne suis pas en train d'envoyer un message à la princesse de Monaco, mais néanmoins, oui, ce silence interroge. Il y avait une scène qui était particulièrement bouleversante, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour la fête nationale auquel elle n'assistait pas, puisqu'elle était toujours en Afrique du Sud. Elle a été hospitalisée et elle a dû rester en Afrique du Sud de longs mois. On avait pour la fête nationale, vous avez toujours cette image du couple souverain et de ses enfants au balcon du palais princier, et on avait le prince avec ses deux enfants qui tenaient des dessins « We miss you, mommy ». Et on a beaucoup... On a été très émus par cette image parce qu'on s'est demandé si c'était autant une déclaration d'amour que finalement un appel, presque même un appel de détresse. Et ces images fortes, de les décrypter, de les interroger, c'est important parce que ce sont des images que tout le monde a vues sur les réseaux sociaux, dans la presse people, etc. etc. Et ça dit quelque chose aussi
mais
de cette détresse.
Mais dans ces monarchies, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de transparence sur le dossier médical, mais, contrairement à des chefs d'État.
En tout cas, sur la santé mentale, Dieu merci qu'on ne vous convoque pas pour savoir si vous allez bien, si vous faites une dépression, etc. L'intime est quand même respecté. Après, ce qui est de la transparence de la santé, ce sera toujours, soyons pas naïfs, compliqué. On a vu les débats de savoir de quoi était vraiment morte la reine Elisabeth II, son propre père qui était mort, alors on était dans les années 50, d'un cancer du poumon, les gens l'ont appris pratiquement le jour de sa mort. Je ne crois pas que cette transparence existe
alors,
complètement partout.
Partons vers un pays où là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de transparence, c'est le Japon, avec la destinée tout de même très singulière de l'impératrice Masako. D'ailleurs, vous écrivez « Comment cette femme intelligente, ambitieuse, s'est-elle laissée enfermer dans une cage dorée? Est-ce qu'elle a sous-estimé le poids de l'institution ? Elle se laisse séduire par l'empereur, elle est diplômée de Harvard, elle est fille de diplomate, elle a vécu à l'étranger, elle est multilingue. Comment est-ce qu'elle se retrouve emmurée dans un palais ? Pendant plusieurs décennies, elle l'est toujours.
Alors là, on part donc du côté du trône de Chrysanthème, comme on appelle la famille impériale du Japon. Pour vos auditeurs, c'est la famille royale ou impériale la plus vieille au monde. C'est-à-dire que selon même la légende, l'empereur du Japon descend de la déesse du soleil. Bref, je crois que l'empereur Naruhito est aujourd'hui le 126e empereur du Japon. Vos auditeurs me corrigeront si je fais une bêtise. C'est une femme déjà qui ne s'est pas laissée séduire et qui n'a pas accepté tout de suite cette demande en mariage. Puis elle a sans doute cru qu'elle pourrait changer, et là c'est pareil, je parle avec du conditionnel, les règles de l'intérieur, parce que ce que lui a promis visiblement son futur empereur de Marie, c'est qu'elle serait un peu une forme d'ambassadrice. Sauf que la monarchie du Japon est encore plus symbolique et encore moins de pouvoir que les monarchies européennes. Et puis c'est une cour, il y a un spécialiste américain ou australien, je ne sais plus, qui l'a décrit et qui dit « Si Diana pense avoir vécu des choses tristes, ce qu'a vécu Masako à côté, c'est un pique-nique ensoleillé. » C'est-à-dire que vous avez une institution, qui est l'agence impériale, qui règle la vie de ces gens au millimètre.
Totalement moyenâgeuse, en
réalité. Oui, totalement moyenâgeuse. Le premier bad buzz qu'a dû subir cette pauvre princesse puis impératrice, c'est au moment de la conférence de presse de son mariage. Elle a eu le malheur de parler quelques secondes de plus.
Ça, c'est quand elle est fiancée, hein.
Tout à fait, annonçant son mariage, quand elle est fiancée. Et rien que ça, qu'une femme puisse parler quelques secondes de plus que son mari, au sein déjà de la société japonaise, je ne suis pas spécialiste du Japon, mais qui est quand même une société très particulière, très codifiée et sans doute très machiste, mais qui plus est, au sein de l'institution de la famille impériale, qui est le bastion même du conservatisme, c'était impossible. Et des gens lui ont tombé dessus là-dessus. Donc comment vous pouvez exister, comment vous pouvez trouver votre place dans un modèle hors du temps.
Mais qui est à la fois un modèle hors du temps, il y a une place où il y a une place unique. Celle-là aussi, je pense, c'est la place du symbole le roi ou la reine. Il n'y a que ça. Et en dehors de ça, effectivement, ce sont des sujets. Mais enfin, non, finalement, ce sont des sujets dans le sens où ils doivent être le porte-voix de la couronne. Enfin,
je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez sûrement pas répondre. Mais est-ce que là, dans le cas du Japon, c'est l'institution qui crée la maladie psychique, puisque l'impératrice Masako, tout le monde le sait, elle ne va pas bien sur le plan psychique.
C'est l'institution en tant qu'enfermement. Ça, je pense que la maladie psychique, ça pour rien qu'on enferme, des gens, on va les enfermer, les malades psychiatriques. Et ça, c'est vraiment un défaut, effectivement, de toute institution où rien, pour pouvoir se nourrir elle-même, rien ne doit en sortir, rien ne doit venir de l'extérieur. Et bien, ça tourne en rond. On pourrait dire c'est ce qu'on appelle incestuel. Hein. C'est qu'effectivement, le sang n'est pas renouvelé. Hein. Donc,
Si
elle vient de l'extérieur, hein,
dès le moment où elle n'a plus la possibilité, elle fait très peu de poids par rapport à l'ensemble, et puisqu'elle doit se soumettre. Ça va, alors c'est là, si on faisait le parallèle, moi je suis très curieuse de voir par rapport justement à Kate Middleton, qui pour le moment est encore un sujet à part, enfin à la fois qui accepte, et peut-être que ça veut dire elle renouvelle. Tandis que là, il y a une soumission qui fait que, c'est la maladie qu'elle a dessus.
Je ne sais pas si à l'époque moderne, il y a des princesses ou des impératrices japonaises qui n'ont pas eu de problèmes psychiques. La propre belle-mère de Masako, Michiko, en a perdu sa voix un moment. Une de ses nièces, la princesse Mako, récemment a tout quitté pour aller épouser l'homme qu'elle aime après des années d'attente, alors qu'elle voulait juste partir, prendre un vol pour New York. Elle a réussi, mais toutes les princesses japonaises, il n'y a pas de place pour les femmes. Dans cette institution. C'est-à-dire que si vous êtes une princesse japonaise, vous avez deux choix. Soit vous vous mariez et vous devenez une simple citoyenne et on vous expédie, hop, avec votre valise et on vous paye même des cours de ménage pour devenir une bonne femme au foyer japonais. C'est vrai, c'est ce qui est arrivé à la propre sœur de l'empereur. Soit si vous voulez rester princesse, vous restez vieille fille.
Alors que l'avenir des monarchies en Europe, vous le soulignez, vous le rappelez, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, dans les années à venir, auront des reines, en fait.
Oui,
à la tête de leur monarchie.
Et ça, c'est formidable. Il y a eu tout un mouvement déjà dans les années 90 qui a constitué...
Il n'y a pas eu assez de garçons qui sont nés, ça, ils ne sont pas encore en bonne position.
C'est plus positif que ça, c'est-à-dire qu'enfin, tout ce qui est, on appelle la primogéniture mâle, c'est-à-dire le fait que le garçon, même si c'est un cadet, aura toujours le pas sur sa sœur aînée, tout ça, c'est parti dans beaucoup de monarchies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de monarchies où c'est toujours le garçon qui passe devant, même s'il est plus petit, c'est l'Espagne. Felipe VI, le roi Felipe VI, est le cadet par rapport à ses deux sœurs.
Et il passe devant ses sœurs.
Et Monaco. C'est-à-dire que Monaco, vous avez des jumeaux. Oui. La petite Gabriella est née quelques secondes, quelques minutes avant son frère Jacques. C'est pourtant Jacques qui sera le prince souverain.
Alors, on fait le grand écart, parce que vous terminez le livre avec, je dois dire, des questions assez amusantes. Vous évoquez la possibilité future d'un mariage homosexuel dans un palais, puisqu'on ne voit pas pourquoi ces familles seraient différentes du reste du monde et du reste de l'humanité. Ça poserait évidemment des questions. Quand on pose la question au prince William, un journaliste lui demande comment vous réagiriez si vous aviez un de vos enfants qui était homosexuel, il dit mais ça ne me poserait absolument aucun problème.
Un de vos enfants, c'est déjà pas l'aîné. C'est déjà pas la même chose si Georges était demain gay ou si Charlotte ou Louis étaient gays. Il n'y a pas de problème institutionnel. Et d'ailleurs, il y a même récemment des premiers ministres, des chefs de gouvernement qui ont affirmé, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, il n'y a rien dans la Constitution qui l'empêche. Je pense néanmoins que toutes les familles évoluent, mais qu'aujourd'hui, l'un des derniers tabous est au niveau de la sexualité, c'est-à-dire au niveau ou de l'homosexualité ou de l'infertilité. Parce que malheureusement, aussi modernes puissent être les familles royales, il y a un moment, quel est le job premier d'une princesse héritière si ce n'est de donner elle-même un héritier à la couronne ? Ça, on pourra faire tout ce qu'on voudra. On pourra défendre tous les combats féministes qu'on voudra. Aujourd'hui, il y a quand même ce côté plus que traditionnel, c'est dans leur ADN. Et là, forcément, au niveau de l'homosexualité, au niveau de l'infertilité, il n'y a aucune princesse.
C'est le sang, il faut
faire. Il n'y a aucune famille royale qui, un jour, a osé parler de FIV, qui, un jour, a osé parler. Et on imagine que ça a dû arriver, que ça arrive. Et néanmoins, c'est tu, et c'est l'un des derniers tabous, selon moi.
Mais là, je pense que parce que l'héritage, c'est vraiment par le sang. Enfin, je veux dire, le côté, la symbolique du sang transmis. Enfin, c'est le...
On arrive au terme de cette émission. L'avenir des monarchies en Europe, à part fournir des scénarios de série ou de fournir un récit national commun, vous évoquiez la Norvège. C'est très surprenant, parce que la monarchie norvégienne, c'est vrai qu'on ne la connaît pas tellement.
Moi, je les adore.
Ultra populaire, plus populaire que la monarchie britannique dans son pays, puisque pour redonner les chiffres, on a 76% des 16-20 ans qui soutiennent la monarchie. On ne peut pas dire pourtant que les jeunes Norvégiens soient des has-beens. Hein. Et 80% d'entre eux pensent que la princesse Ingrid Alexandra sera reine un jour. Est-ce que ça montre une autre voie ?
En tout cas, ça montre que cette famille de Norvège, qui est très moderne... Aujourd'hui, vous avez un roi en Norvège, Harald V. Son fils aîné, quand il s'est marié avec une femme qui avait déjà eu un enfant d'un précédent mariage. Pas d'un précédent mariage, mais d'une précédente union. Ultra moderne. Tout le monde peut se voir dans ces familles recomposées. Et pourquoi les jeunes sont interrogés en Norvège ? Parce que la fille aînée de ce prince héritier, la princesse Ingrid Alexandra, a tout juste 18 ans, et que c'est une gamine ultra moderne qui fait du surf. Donc, le modèle présenté est un modèle qui est, je pense, le plus avant-gardiste de ce qui se fait sur la place royale européenne.
Mais si une famille de la monarchie nous ressemble trop, est-ce qu'elle ne perd pas finalement de son...
Ben là, c'est là une question d'incarnation. C'est que je pense qu'elle... D'abord, c'est encore une fois un modèle. C'est pas copier ce qui se passe. C'est qu'est-ce qu'elle incarne. Et je crois que ça... Moi, je comprends vraiment qu'on puisse aimer, enfin, ou soutenir la monarchie dans le sens où ça peut être une référence qui assure là, une forme de cohérence. On accepte qu'il y ait quelqu'un qui nous unit, mais à condition qu'il ait un comportement qui soit effectivement respectueux.
Qui nous réunisse.
Voilà. Oui.
Oui, je pense que les obsèques d'Elisabeth II l'ont aussi montré, ce moment de communion nationale et internationale. Peut-être qu'on a besoin de symboles et ces personnalités.
Et du sacré.
Et de sacré d'une certaine manière, et ces personnalités peuvent incarner ces récits-là.
Merci à tous les deux. Altesse en détresse, quand les psys s'invitent chez les têtes couronnées, Thomas Pernet, Virginie Méglet. Merci à tous les deux d'être venus.
Merci beaucoup.
On se quitte avec allez, un petit peu de bling bling hein, cette fois-ci, le Nigérian Mr Easy Patek. Any money where I get, I de flex, I de go, I de vest, I de shop, Patek, she see fly boy in the jet, my baby my pet, she na pussy cat, see back, see the yash, free pass, maybe that, she go wine and well when she see the cash, 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 go go, cash, cash, she go wine and well.
Cash.
Toute l'équipe, Damien Roucou, Zainaba Diallo, Divine Berthoud, Romain Dubrac, les voisins, vous le savez, pendant le week-end, vous pouvez télécharger nos émissions, les émissions que vous avez manquées, tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.